Au Dakota, j'étais tranquille. J'avais hérité de l'appartement d'une sœur de mon père et d'un petit paquet d'argent. Habiter au Dakota entraîne certains frais. Quand la copropriété veut rénover béton les caves, vous avez intérêt à pouvoir suivre. Jusque-là, j'avais toujours vécu chez ma mère dans un village de l'ouest de la France. J'étais ébéniste, j'avais mon atelier, tout allait bien. J'ai eu une enfance bénie avec ma mère qui était veuve. Et j'aurais pu me satisfaire de continuer comme ça. Ma mère admirait mon travail, surtout les petites boîtes embarquées très fines. Elle m'en a d'ailleurs beaucoup voulu de mon départ. Elle détestait ses belles-sœurs. L'américaine. Mais je n'ai pas résisté à l'appel du Dakota. La mort de cette tante a littéralement changé ma vie. J'ai laissé tomber mon boulot, j'ai traversé l'Atlantique et ma principale activité a désormais consisté à habiter le Dakota. Le Dakota est un des plus beaux immeubles de Manhattan, au coin de Central West et de la 72e rue. Boris Karloff, Lorraine Bacall, Judy Garland et bien d'autres habitaient le Dakota au moment où j'y ai aménagé. Polanski y a tourné la plupart des scènes de Rosemary's Baby. Les planchers sont en ébène et en merisier et la hauteur sous plafond dépasse les 4 mètres. Il s'appelle le Dakota, paraît-il, parce qu'en 1881, année de sa construction, ce coin-là de Central Park semblait aussi désert et lointain que les territoires du Dakota. Au coin de l'immeuble, il y a d'ailleurs une statue d'Indien Dakota qui guette, comme une vigie à la proue d'un bateau. Quand on hérite d'un appartement au Dakota, même d'un petit 5 pièces comme le mien, on se renseigne, on apprend des choses. Je suis devenu un obsédé du Dakota. C'était moi le gardien du temple. J'en savais plus sur cet immeuble que Leonard Bernstein lui-même, qui vivait là depuis tout petit. Par exemple, le Dakota est bâti suivant les principes de l'architecture française. Il dispose, fait remarquable à Manhattan, d'une porte cochère. Les pièces communiquent par des portes en suite, typiquement françaises. Et dans les occasions festives, on peut passer de pièce en pièce de façon naturellement conviviale. J'ai lu ça dans un guide. Ma mère a pris l'avion pour la première fois de sa vie pour visiter mon nouveau logis. Elle a dit en hochant la tête...
Mais c'est un immeuble fait pour les fantômes. Toutes ces portes leur facilitent la vie.
Le matin, je me levais, je me faisais du café et mes premières pensées étaient déjà hantées par le Dakota, par la chance que j'avais d'habiter cet immeuble. Je déambulais dans mes 5 pièces, j'observais les nuances du parquet, la subtilité des finitions, la délicatesse des plaintes, et je levais la tête vers le plafond. Et puis, je regardais le parc par ma fenêtre, et je n'en revenais pas de ma chance. Habiter le Dakota sur Central Park, être l'unique héritier d'une habitante du Dakota. Je disais bonjour à ma mère au téléphone. Pour elle, en France, c'était l'après-midi, et pour moi, la journée commençait. Mon ravissement était un peu gâché par la pensée parfois que j'aurais pu avoir plus grand. L'appartement du dessus comptait pas moins de 20 pièces. Ou que j'aurais pu, avec mes 5 pièces, me trouver plus haut, sous les toits, bénéficier d'une vue encore plus dégagée sur le parc, et limiter le nombre de voisins, parce que, il faut savoir une chose, au Dakota, comme dans tous ces vieux immeubles autour de Central West, c'est mal insonorisé. Polanski, avec son film, nous avait déjà causé beaucoup de dérangements. Pourtant, j'étais plutôt tranquille. Ma mère ne me manquait pas. J'éprouvais même un certain soulagement. Et puis, l'appartement du dessus était vide. Vide depuis des années. Qui peut s'offrir 20 pieds sur Central Park de nos jours? Et puis, sont arrivés mes nouveaux voisins. Au début, je ne me suis pas méfié. Pas d'enfant. Lui, un peu terne derrière ses lunettes. Elle, petite, dynamique, asiatique. Bon, je n'ai rien contre les Asiatiques, ni contre les Noirs ou les Juifs, ni contre les homosexuels, soit dit en passant. Mais je ne fais que constater. C'était la seule habitante de couleur du Dakota. Et lui, il avait les cheveux longs. Pourtant, personne n'a émis le moindre signe de contrariété. Non. Tout le monde semblait très content de ces nouveaux arrivants. Il y a eu une première alerte très vite après leur emménagement. Un attroupement sous mes fenêtres. Des gens qui criaient « John! John !» Je m'appelle pas John, mais je pensais à des amis qui n'arrivaient pas à convaincre le gardien de leur ouvrir. Faut dire que depuis que j'habite le Dakota, j'ai beaucoup d'amis qui viennent dormir dans les pièces du fond, mais dont certains, je m'en aperçois de temps en temps, ignorent mon prénom. Enfin, ce sont surtout des amis de Marco. Marco, ça fait longtemps que je le connais. Il m'a suivi jusqu'à New York quand j'ai emménagé au Dakota. Mon voisin du dessus s'est penché à sa fenêtre, au-dessus de la mienne. Il a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Ses copains en bas se sont mis à crier John encore plus fort. L'Indien Dakota n'était plus le seul à faire le guet au coin de la rue. On aurait dit qu'il venait chaque jour de plus en plus de curieux, le nez en l'air. Par la suite, j'ai constaté que le gardien faisait du zèle pour éloigner tous ces badauds qui avaient tendance à prendre notre porte cochère ou notre trottoir sur la 72e pour un lieu public où l'on fait des photos. Mais tout ça n'était rien. Ils se sont mis à recevoir du monde. Comme je l'ai dit, les pièces en enfilade se prêtent à la convivialité. Mais enfin, chez eux, c'était exagéré, à croire qu'ils tenaient des conférences de presse ou je ne sais quoi, un défilé permanent. On était plus tranquille chez soi. Pourtant, le pire était à venir. Ils se sont mis à jouer de la musique. D'abord, de la guitare électrique. Bon, je mettais des bouchons d'oreilles. Ça allait encore. Mais ils chantaient. Enfin, ils hurlaient. Lui, surtout. Un jour, il est venu sonner chez moi. Il fallait pas que je m'affole si j'entendais des cris, me disait-il. Je m'étais plaint en gardien entre-temps. S'était mise au primal scream. Un cri par lequel on renaît, on revit sa naissance, ou je ne sais quoi. Enfin, il m'expliquait ça sur mon palier. Vous connaissez pas le primal scream? Me demandait-il derrière ses lunettes. Mais fou! un taré ordinaire comme on en voit tant dans les immeubles de riches, qui passait ses journées chez lui à se livrer à ses petites expériences.
Mais tout ça va mal finir.
Tout ça va mal finir, me répétait ma mère. Mes amis, eux, ils étaient de plus en plus nombreux à venir boire des bières. Ils traînaient dans le hall, ils les attendaient devant l'ascenseur, ils laissaient ma porte ouverte dans l'espoir d'apercevoir mon voisin. Ils me disaient qu'il s'agissait d'un chanteur célèbre.
John Key ?
Me demandait ma mère. Moi, je connais rien dans la musique contemporaine.
Mais plus connu que le Christ !
Me répétait Marco. Je me demandais si tout le monde n'était pas en train de devenir fou. La guitare, les cris, passent encore. Mais ils se sont fait livrer un piano. Un piano à queue, blanc, monstrueux. Les portes à la française étaient trop étroites. Alors, les déménageurs ont installé une poulie sur le toit. Toute la rue regardait ce piano blanc qui montait en se balançant le long de notre façade. Non, on n'était plus tranquille au Dakota. Les fêtes, la guitare, les cris, ça ne traverse pas encore trop les planchers en ébène et en merisier. Mais le piano, c'est l'enfer. Rien ne résiste au piano. Le piano à queue, surtout, a une caisse de résonance qui devrait être interdite par la loi. Ça descend dans les canalisations. Ça cogne le long des plinthes. Ça passe à travers les bouchons d'oreilles. Ça fait des nappes au plafond et des rideaux dans les murs. Un jour, il y avait des travaux dans la 72e, j'entendais le piano plus fort que le marteau-piqueur. J'ai besoin de calme, moi. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. J'aurais eu besoin, je ne sais pas, moi, d'une femme. Peut-être d'enfants. J'imaginais, bien avant déjà que mes voisins n'emménagent, de rédiger une petite annonce. Mais impossible de me concentrer deux minutes. À peine voyais-je se dessiner une silhouette, un avenir, un plan de vie. À peine commençais-je à avoir une idée sur ce que je voulais que... Les premières notes coupaient ma réflexion. Je perdais le fil de ma petite annonce. La femme imaginée s'enfuyait comme un spectre. Et je ne savais plus du tout ce que j'avais prévu de faire. Promener dans le parc, repeindre une plainte, lire le journal. Je me refaisais mécaniquement du café, mais je n'avais plus goût en rien. Ma tête n'était plus que guitare ou piano. Marco m'a offert un disque.
C'est pour que tu meurs pas, idiot.
Un disque en échange de toutes ces bières depuis toutes ces années. Imagine, ça s'appelait. C'était de mon cas. We'll be right back. ce morceau-là, Imagine. Je l'avais eu pendant des semaines au-dessus de ma tête. Imagine toute la journée. Ce qu'on dit sur les nonnes qu'il écrivait ses machins en 5 minutes, c'est complètement faux. Ce type est un tâcheron. En plus, il se disputait pas mal. Je crois. Enfin, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Toujours est-il qu'à un moment, le John en question a disparu. Il ne restait plus que l'Asiatique, et elle-même, elle était rarement là. J'ai pu un temps reprendre mes petits déjeuners tranquilles, mon café avec vue sur le parc. Il paraît que c'était elle, la japonaise, qui l'avait fichue dehors. Marco n'avait de cesse de lire la presse.
Il est à Los Angeles.
Il est à Los Angeles.
Il fait ci, il fait ça.
Il fait ça. Il déprime. Numéro 6 y était mise. Elle continuait à m'appeler tous les jours, mais c'était pour avoir des nouvelles de mon voisin. Je lui avais refilé Imagine et ça a été comme une maladie qu'elle a attrapée. Elle s'est mise à écouter tous ses disques et à lire tous les articles. Malheureusement pour moi, ils ont fini par se rabibocher, mon voisin et ma voisine. Et voilà qu'un jour, je la croise enceinte. Moi qui me croyais tranquille de ce côté-là. Pourtant, la naissance de leur petit garçon a eu un effet positif sur ma vie. Plus de musique pendant 5 ans. De 1975 à 1980, si je rassemble mes souvenirs, je ne me souviens plus que des pleurs du nourrisson, puis du bruit des petits pas sur le plancher, puis des ballons, des trains électriques et autres coin-coin de canards. Mais après tout, je ne suis pas un monstre. J'ai été moi aussi un petit garçon et ces bruits-là m'attendrissaient plus tôt. Ma mère a débarqué au Dakota. Elle se faisait du souci pour mon voisin.
Mais rien depuis Stand By Me. C'est insupportable.
Et quand elle le croisait, il fallait que je subisse ses yeux en amouré. Le monde marchait sur la tête.
Oh là là, on a-t-il du mal quand on a du bien?
Le seul avantage, ma mère est là, c'est que mes copains buveurs de bière s'en vont. Pour le reste, c'est comme si la seule présence de mon voisin rendait tout le monde fou. Mes relations avec lui, en tout cas, se sont considérablement améliorées. Quand je le croisais, je le saluais de nouveau. Jusqu'à ce jour maudit de 1980, où John Lennon a repris sa guitare. Aux premières notes, j'ai lâché ma cafetière. Elle s'est abattue sur mon plancher dans un énorme fracas. C'était l'enfer qui recommençait. Mes voisins se sont mis à habiter mes pensées 24 heures sur 24. Et elles devenaient mauvaises, mes pensées. Je le guettais, mon voisin, quand il traversait la rue, et je me disais, si une voiture l'écrase, je serais bien débarrassé. Ou bien, je le suivais des yeux le long de la 72e, et je comptais ses pas en me disant, à 100, il va tomber foudroyé par une crise cardiaque. Mon corps, je rêvais à un incendie qui ravagerait tout l'immeuble, ne laissant aucun survivant sauf moi. J'en étais là, et Dieu sait que j'aime le Dakota.
ont vu, vous aviez évoqué votre voisin.
Sur les conseils insistants de Marco, j'en suis même venu à consulter un psychanalyste.
Personne.
Mais c'est pas ce qui manque dans mon quartier.
Là encore, j'ai l'impression que votre réaction par rapport à l'événement.
Dès la troisième séance, il m'a demandé le nom de mon voisin.
John Lennon !
A-t-il hurlé ?
Ah oui, là, effectivement, oui.
J'ai compris que c'était fini pour moi, la psychanalyse. Il y avait un type que j'avais repéré depuis un moment sur la 72e parmi tous les badauds. Il se tenait toujours à l'angle de la rue. Aussi immobile et calme que la statue de l'Indien. Souvent, il lisait. Un malaise me venait en contemplant ce type. J'avais l'impression qu'il lisait dans mes pensées avec la même assurance qu'un Indien Dakota. De temps en temps, il jetait des coups d'œil vers mes fenêtres et il me semblait qu'il me regardait, qu'il me scrutait. Le matin du 8 décembre 1980, ce type court vers mon voisin qui sortait tranquillement de la porte cochère et lui fait signer un album. Ce genre de choses arrivait souvent. À la nuit tombée, il y a eu, je me souviens, des feux d'artifice sur Central Park. Et pour une fois, les regards des badauds étaient tournés vers le parc et non pas vers mes fenêtres. Vers 10h30 du soir, je ne dormais pas encore. Pourtant, j'ai pour habitude de me coucher tôt. Le type à l'autographe semblait être parti. En tout cas, je ne le voyais plus. Mes voisins n'étaient toujours pas rentrés et j'avais pu bénéficier d'une journée calme. Ils étaient en train d'enregistrer le disque qu'ils avaient répété au-dessus de ma tête pendant des mois. Je m'étais fait du café et installé confortablement à mon poste d'observation. À 10h50, leur limousine arrive. Yoko entre dans l'immeuble. John la suit. Je vois le type jaillir de la porte cochère, interpeller John et tirer. J'ai été un des principaux témoins au procès de Mark David Chapman. J'ai essayé de leur dire aux jurés que c'était moi qui avais inspiré ce meurtre, que ce Chapman, sous mes fenêtres, avait absorbé mes mauvaises pensées comme une éponge et avait agi à ma place, à la place de ce démon qui s'emparait de moi dès que j'entendais le piano. Mais Marco et ma mère m'ont convaincu de laisser tomber et je suis retourné au village quelque temps pour me reposer. Quand je suis revenu au Dakota, ça faisait comme un grand vide. Je croisais parfois Madame Ono, elle se cachait derrière des lunettes noires. Je cherchais à lui dire un mot, à lui manifester toute ma compassion, moi qui n'avais pas toujours été un voisin aimable. Mais elle ne semblait pas me voir. Elle était d'une grande beauté. Une Jackie Kennedy asiatique derrière ses grandes lunettes noires. Des années après, j'ai été un des premiers à ouvrir un site sur Internet. Il y a des photos du Dakota, de mes fenêtres, de leurs fenêtres, et de tous les endroits où John s'est arrêté sur les trottoirs de la 72e avant d'être assassiné. Finalement, j'ai réussi à rédiger mon annonce matrimoniale. Mais ma femme m'a quitté récemment, et elle a eu la garde de Jonelle et de Yono. Pour Yoko Ono. Un garçon et puis une fille. Je vis toujours au Dakota. Mais il me semble que ma voisine ne vient presque plus jamais.
Les temps ont changé,
me répète Marco. Pourtant, lui, il vient toujours boire mes bières et fumer mes cigarettes. Maintenant, les badauds se rassemblent un peu plus loin. De l'autre côté de la rue, autour d'un monument qui s'appelle Strawberry Field Memorial, et devant lequel je parle à mon voisin un petit peu tous les jours. Je lui demande de me pardonner. Et il me semble que là où il est, il m'entend. Marco m'a offert un tablier de cuisine John Lemon pour me dérider. On voit un agrume qui porte des lunettes et des cheveux longs et qui a le même visage ovale que John. Ça ne m'a pas fait rire.
Oh, le passé, le passé!
Le silence au Dakota est une chose terrible. Dans le silence, j'entends le piano et la voix qui chante Imagine! Un jour, je suis allé étendre du linge à la cave. Les machines sont au sous-sol, au Dakota. Et John Lennon était là, étendu sur des cartons. Yoko a déménagé, je crois. Vous n'avez plus vos clés?
Non.
Mais il fallait sonner chez moi, je vous aurais ouvert. Vous vous souvenez de moi, quand même. Il avait l'air un peu défait. Ce qui se comprend après tout ce temps passé dehors. Déjà en 1974, quand Yoko l'avait mis à la porte et qu'il errait dans Los Angeles, ça n'allait pas très fort. Mon voisin est un homme fragile, psychologiquement. On a toujours tendance à surestimer les génies sur ce plan. Je lui ai proposé la chambre du fond. J'étais un peu gêné parce que le tablier John Lemon pendait en évidence dans la cuisine. Mais il n'a pas paru prêter attention. Nous nous sommes mis en quête du numéro de téléphone de Yoko. Croyez-le ou non, moi qui étais son voisin pendant toutes ces années, personne n'a voulu me le donner. Ni le gardien, ni les autres voisins qui prétendaient qu'il ne l'avait pas. Et aller trouver le numéro de téléphone de Yoko Ono dans l'annuaire, tout était beaucoup moins facile que je ne l'aurais cru.
C'est pas John Lennon.
J'étais très gêné. Mais John m'avait tout expliqué quand je lui ai montré mon site internet. Chapman était un agent de la CIA. Ils ont simulé un assassinat et ils ont planqué John pendant des années. Ils l'ont drogué, il ne se souvient de rien, mais il voulait surtout le faire taire à cause de ses engagements pacifistes et tout ça.
John Lennon est mort.
J'ai été obligé de mettre Marco à la porte. Ma mère, que j'ai appelée dès la réapparition de John, est venue s'installer avec nous. Il était temps qu'elle prenne cette décision de toute façon. Ma mère va sur ses 96 ans et elle a parfois des moments d'absence. Elle ne vit que pour John et pour moi. John a l'air très content d'être avec nous. Il a laissé tomber l'idée de revivre avec Yoko. Et Sean, son fils, que nous avons abordé un jour qu'il revenait au Dakota, nous a envoyé paître. John a pris ça mieux que je ne le craignais. Moi non plus, je ne vois plus mes enfants, ni ma femme. Nous nous entendons très bien, John et moi. Surtout qu'il a renoncé à la musique. Il boit mes bières. Il semble m'avoir pardonné mes mauvaises pensées.
Get yourself together, dog.